Poussière et granit. Présenté par Christian Delors.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes bien sur Radio Alliance Plus, 103.2 FM, DAB+, et radioalliance+.fr. Voici Poussière et Granit, au micro Christian Delors et à la technique Louis Esparcel. Les religions devant la situation au Proche-Orient. Voici un communiqué de presse de la Conférence des responsables de culte en France, CRCF, communiqué qui date du 9 octobre dernier. Le 9 octobre 2023, responsables religieux, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes, nous exprimions ensemble notre effroi et notre profonde tristesse face à la barbarie du Hamas. En ce 7 octobre 2024, nous peinons à prendre la mesure des traumatismes sans précédent pour notre génération engendrés par ces actes terroristes, mais aussi par les populations civiles victimes collatérales de la réponse militaire israélienne. Elles emportent tragiquement plusieurs milliers de victimes. Nous nous inclinons devant l'immense souffrance de celles et de ceux qui ont perdu un être cher dans des conditions atroces, celles des otages et de ceux qui, parents d'otages, ont traversé tant de mois dans l'incertitude et l'angoisse. Nous portons aussi dans notre cœur et notre chair l'immense souffrance des civils israéliens, palestiniens et libanais, des familles meurtries, des existences anéanties, livrées à la terreur et aux ravages que produit la guerre. Nous réprouvons les exactions commises en Cisjordanie. Nous nous inquiétons vivement des conséquences durables de tant de violences, terroristes ou militaires, chez ceux et celles qui les subissent et ceux et celles qui les exécutent. Nous mesurons combien les événements au Proche-Orient pèsent sur la société française. Pour les Juifs et pour les musulmans, les blessures sont vives et douloureuses. La haine et les discriminations anti-musulmanes se multiplient de manière inquiétante, et les actes antisémites ont encore augmenté de manière exponentielle. Alors que dans notre société profondément polarisée, le dialogue est plus important que jamais, même les relations interreligieuses sont mises à l'épreuve, voire gelées. L'expérience heureuse de l'aumônerie au centre multiconfessionnel du village olympique et la fraternité vécue dans le cadre du programme de formation Emouna, formation interreligieuse portée par Sciences Po, montre pourtant que la fraternité demeure possible. La solidarité interreligieuse, vécue après les attaques des synagogues de Rouen et de la Grande Motte, en ont fourni une nouvelle preuve. Il tient à nous de ne pas importer en France ce conflit. Aussi, nous, responsables religieux, catholiques, protestants, orthodoxes, juifs, musulmans et bouddhistes, appelons à la libération de tous les otages, à un cessez-le-feu et réaffirmons ensemble nos valeurs communes. Nous réprouvons la violence sous toutes ses formes et déplorons le nombre insupportable de victimes civiles. Nous condamnons la prise d'otages civils ou militaires et appelons à leur libération immédiate. Nous condamnons tout discours appelant à la haine et à la destruction. Nous appelons à la prière pour le peuple israélien, pour le peuple palestinien, pour le peuple libanais et pour le peuple iranien qui se trouvent aujourd'hui pris dans une logique de guerre, pour celles et ceux qui sont endeuillés, pour celles et ceux qui ont été pris comme otages ou vivent l'angoisse d'un proche kidnappé, pour tous ceux qui sont déplacés et dont les moyens de subsistance sont précaires. Nous exprimons notre gratitude pour les organisations qui travaillent à maintenir soins médicaux et approvisionnement. nous invitons les forces politiques, religieuses, culturelles du monde entier à agir pour qu'une paix juste et durable puisse se construire dans toute la région. Nous demandons aux responsables politiques de notre pays à travailler pour une action concertée de la communauté internationale et à rappeler aux belligérants la nécessité du respect du droit international humanitaire. Nous appelons nos concitoyens, croyants ou non, à préserver et cultiver les relations fraternelles qui lient les uns aux autres dans le respect et l'attention mutuelle, à rejeter fermement tout antisémitisme, toute haine anti-musulmane, tout racisme, tout mépris ou discours de haine et de mort, toute stigmatisation de tout ordre, à rechercher inlassablement la vérité et la justice en vue de la paix. Nous nous engageons à agir toujours en ce sens. Plus de 30 ans après la dernière initiative de paix qui avait été portée par les accords d'Oslo, il est grand temps de comprendre qu'une politique prétendant utiliser la violence à son profit ne peut aboutir et que la recherche de la paix est indispensable. Les responsables politiques en ont le grave devoir. Les armes doivent se taire et la fraternité revenir. Le droit international, si imparfait soit-il, doit redevenir le socle du processus à ouvrir. Ce texte a été signé par le pasteur Christian Krieger, président de la Fédération protestante de France, par Mgr Éric de Moulin-Beaufort, président de la Conférence des évêques de France, par Mgr Dimitrios, président de l'Assemblée des évêques orthodoxes de France, par M. Haïm Korsia, grand rabbin de France, par Maître Shemseddine Hafiz, recteur de la Grande Mosquée de Paris, par M. Anthony Boussmar, président de l'Union bouddhiste de France. Conseil œcuménique des Églises. Le Conseil œcuménique des Églises, vivement préoccupé par l'aggravation des tensions dans la péninsule coréenne. Le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises, le pasteur Jerry Pillay, a fait part de ses vives inquiétudes concernant l'évolution de la situation dans la péninsule coréenne et l'aggravation des tensions et des risques de conflits dans la région. Le 15 octobre, la Corée du Nord a fait sauter les tronçons au nord des routes et des voies ferrées qui la reliaient autrefois à la Corée du Sud. Bien qu'essentiellement symbolique, la démolition de ces voies inutilisées renforce la nouvelle politique décrétée en janvier dernier par le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un, dans laquelle il a officiellement coupé les liens avec la Corée du Sud et renoncé à l'objectif de longue date d'une réunification pacifique de la Corée, a déclaré le secrétaire général du Conseil œcuménique des Églises. Cette manifestation d'intention accélère encore la confrontation et les tensions croissantes entre le Nord et le Sud, après les allégations du Nord selon lesquelles des drones envoyés par le Sud auraient survolé sa capitale Pyongyang. Des rapports récents indiquent également que la Corée du Nord a envoyé des milliers de soldats en Russie et fourni des armes pour soutenir l'invasion et la guerre de la Russie en Ukraine. Lors d'une rencontre avec le Premier ministre sud-coréen Han Duk-soo, le pasteur Pillay a réitéré l'appel du Conseil œcuménique des Églises à faire preuve de retenue, à adopter des mesures visant à réduire les tensions et à engager le dialogue et la coopération au lieu de la confrontation et du conflit dans la péninsule coréenne, mais aussi dans d'autres situations de conflit et de tensions à travers le monde. Il y a un mois, en septembre 2024, le secrétaire général et plusieurs membres de la direction du Conseil œcuménique des Églises ont participé aux événements marquant le centenaire du Conseil national des Églises de Corée, qui accordait une large place à l'histoire et à l'avenir des efforts œcuméniques en faveur de la paix dans la péninsule coréenne. Malgré la gravité de la division et de la confrontation que nous observons actuellement entre le Nord et le Sud, les personnes participantes se sont engagées à redoubler d'efforts en vue d'une coexistence pacifique dans la région et en vue de l'unité du peuple coréen, nonobstant les trajectoires divergentes des deux pays, a souligné le pasteur Pillay. En effet, c'est dans les moments aussi difficiles et éprouvants que celui-ci qu'il faut réaffirmer et revitaliser l'attachement œcuménique à une paix juste et durable. Question de société. Dans son numéro 4061, paru le 17 octobre dernier, l'hebdomadaire Réforme propose un article intitulé « Le social, un investissement plutôt qu'un coût ». C'est un article de Cathy Gérig dont je propose de larges extraits. Alors que le 17 octobre était la journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, un rapport du collectif Alerte explique qu'éradiquer la pauvreté serait un investissement social payant pour l'économie française. Les commentaires d'Emmanuel Olivier, directeur d'établissement à l'Armée du Salut. Aucune étude de ce type n'avait encore été réalisée en France. Alerte, un collectif de réflexion et d'échange interassociatif sur la pauvreté et l'exclusion, a publié un rapport chiffrant les investissements qui permettraient d'en finir avec la pauvreté. Travailleur social depuis 20 ans, Emmanuel Olivier dirige plusieurs établissements de l'Armée du Salut, membres du collectif en Île-de-France, dont des centres d'hébergement, de demandeurs d'asile, des chantiers d'insertion. Il fait une priorité des sujets politiques que sont l'accès au logement et l'accompagnement vers l'emploi. Le social devrait être vu comme un investissement plutôt qu'un coût, avance-t-il. On néglige trop souvent ce que l'emploi rapporte en matière de dignité, d'estime de soi. Le sentiment d'avoir une utilité sociale est crucial. Sans reconnaissance sociale, on passe de la pauvreté à la misère. Un travail est encore plus important qu'un logement. Quid de l'accompagnement vers l'emploi ? Sur ce point, il faudrait que le travail s'adapte à la personne et pas l'inverse. Il faut arrêter de vouloir changer l'usager. C'est aussi au monde du travail de s'adapter aux familles monoparentales, aux personnes vieillissantes, avec un handicap, aux jeunes, encourage Emmanuel Olivier, qui a le sentiment que la société a fait le choix de ne pas faire travailler tout le monde. Dans son viseur figure par exemple la mauvaise répartition des richesses, celle des emplois, les questions de la formation ou encore de l'intégration. Tantôt les politiques ont accentué un dispositif en faveur de certains publics, tantôt d'autres, mais tout le monde ne rentre pas dans les cases, poursuit-il. Coût caché de la pauvreté. Comme les jeunes en situation de précarité, les travailleurs pauvres sont de plus en plus nombreux. C'est incroyable. En centre d'hébergement, il y a des travailleurs dont le salaire est supérieur à celui d'un travailleur social. En Île-de-France, la situation est très difficile, dénonce le directeur. Il insiste sur la nécessité d'un accompagnement global, emploi, logement, santé, formation, démarches administratives, le plus souvent à cause de la fracture numérique, puisque désormais tout se fait majoritairement en ligne. En matière de logement, les associations ne sont plus les seules à réclamer un investissement plus important. Les municipalités poussent aussi dans ce sens. Les hébergements d'urgence, les haltes de nuit, les pensions de famille ont été créés par défaut. Il faut réformer les dispositifs, souligne Emmanuel Olivier. Il est important de veiller non seulement à l'accès de tous au logement, mais aussi à la mixité sociale. Mettre ensemble des personnes en grande difficulté risque de les tirer vers le bas. Au contraire, les expériences de mixité réalisées en réunissant des étudiants, des salariés et des personnes précaires sont plus bénéfiques. De la même manière, il faut choisir avec soin les endroits où construire des logements, selon le directeur. Il y a du travail à proximité, des administrations, De quoi réduire la fracture numérique? Là encore, il faut faire en sorte de s'adapter aux besoins du public. Nous avons besoin de logements collectifs pour ceux qui souffrent de la solitude. Ils sont de plus en plus nombreux, explique Emmanuel Olivier. S'appuyant sur la lecture d'études ethnologiques et sociologiques, il est convaincu qu'un parcours de rue, d'exil ou de grandes difficultés permet d'acquérir des compétences, des expertises de vie qu'il est ensuite possible de transformer en compétences professionnelles. Idem pour le handicap et les conduites addictives. Ces personnes ont une manière différente d'accompagner les autres, assure le directeur. Plus qu'un toit, un logement pérenne et adapté offre une sécurité. Et dans ces conditions, il est possible de révéler des compétences, celles qui permettent de se remettre en selle et d'avancer dans la vie. Si le rapport du collectif Alerte montre qu'il existe un coût caché de la pauvreté, Emmanuel Olivier observe un certain désintérêt depuis quelques années. De moins en moins d'études sont réalisées, il n'y a pas de chiffres sur le coût caché de la pauvreté, sur la justice, l'éducation ou encore le coût caché d'un enfant pauvre. Les travailleurs cotisent, beaucoup de gens aimeraient eux aussi participer en payant des cotisations pour ne plus se sentir assistés, rappelle celui qui les côtoie. À l'inverse, il insiste sur une autre réalité, le coût de la perte de la cohésion sociale sur la sécurité, la scolarité ou encore la santé. C'était donc un article de Cathy Gérige, intitulé « Le social, un investissement plutôt qu'un coût », publié par l'hebdomadaire Réforme dans son numéro 4061 du 17 octobre dernier. Information locale. En ce qui concerne les informations locales, je rappelle les heures d'ouverture de la Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, le matin du mardi au vendredi de 9h30 à midi et l'après-midi du lundi au vendredi de 14h à 17h et le samedi de 10h à midi. La bibliothèque est ouverte, elle, le vendredi de 14h à 16h. Quelques réunions. Celle de l'Amitié judéo-chrétienne de Nîmes, qui organise les conférences de Édouard Robrecht, maître de conférences en philosophie juive à l'Université de Marseille, de conférences sur le thème « Le serpent et la tentation », « Un serpent qui parle » ou « Une parole serpentine », avec une première rencontre le jeudi 7 juin à 19h au Temple du Mas des Abeilles, 2135 Chemin du Bachas à Nîmes. La première conférence portera sur Une faille dans la parole, conférence du 7 novembre à 19h, et le 28 novembre ce sera Pourquoi le serpent devient-il audible pour la femme et pour l'homme. L'entrée pour chaque conférence est de 12 euros et de 10 euros pour les adhérents. L'entrée est gratuite pour les étudiants et les religieux. Je rappelle aussi le concert qui sera donné le dimanche 3 novembre à 17h au Grand Temple, concert d'orgue avec Georges Lartigot, organiste titulaire de la cathédrale de Mende. Ce concert est organisé par l'association Orgue des Temples protestants de Nîmes. L'entrée est libre. C'est le moment de terminer cette émission. Je vous rappelle que Poussière et Granit, que vous êtes en train d'écouter, est diffusé le mardi à 8h20, le jeudi à 11h15 et le dimanche à 10h10, juste avant la diffusion du service protestant. Au revoir et bonne journée.